Bonjour, bonjour à tous, mardi 18 décembre 2010, donc notre heure, l'heure des voix de service. Je suis Louis de Bernis, bonjour, bienvenue sur Canal M, et quand ça n'est pas l'un, c'est l'autre. J'ai ce matin Côme à mes côtés, bonjour Côme.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Yves-Olivier n'est pas là, mais nous rejoindra sans doute, on verra, c'est... J'ai mes petites surprises, voilà, tous les mardis, c'est le petit roulement de tambour de mon mardi matin.
Qui va être là ?
Qui va être là. Mais nous avons plein de sujets, ça c'est la constante, heureusement, plein de sujets à traiter, à vous présenter. Et je me tourne vers vous, Côme, qu'avez-vous trouvé dans l'actualité, dans la presse ?
Alors, pas mal de choses, on va parler des animaux, parce que j'adore les animaux, mm-hmm. Donc on va parler des fourmis, on va parler des tortues géantes, on va parler d'hibernation. Mm-hmm. Pourquoi pas faire un petit tour dans l'espace quand même, ce serait dommage.
Forcément, hein. Ce ne serait pas vous, le jour où vous arrivez sans un sujet... Sur l'espace, je demande à ce que vous enleviez le masque, il doit y avoir quelqu'un d'autre en dessous.
Effectivement. Et puis un petit sujet surprise, si le cœur nous en dit.
Si le cœur nous en dit, le cœur nous en dira, je l'espère. De mon côté, eh bien des insolites, comme d'habitude. Nous parlerons par exemple de ce chercheur qui veut créer l'arbre de Noël parfait, ni plus ni moins. Également, eh bien, ça c'est moins Noël, moins hivernal. Nous irons du côté des pyramides de Khéops en Égypte, où il y a une affaire de nudité au sommet des pyramides de Khéops. Ça secoue le pays, c'est très sérieux. Et puis, des petites insolites un peu plus courtes. Je vous donnerai, ah oui, deux bons moyens de gagner plein d'argent rapidement. L'argent vole en l'air. Nous sommes en fin 2018, ça y est, les billets volent en l'air.
Voilà, des sujets intéressants.
Voilà, donc notez bien... Ça arrive tout de suite dans les voies de service, tout ça.
Les tortues.
Allons-y avec les tortues.
Alors. Et voilà, c'est parti. Donc, on sait que les tortues géantes vivent quand même assez longtemps. Mm-hmm. Et des chercheurs ont analysé le génome de ces tortues géantes et ils ont ainsi réussi à mettre en lumière différents mécanismes génétiques qui permettraient à ces reptiles d'avoir une longévité bien supérieure à celle d'autres vertébrés. Donc écoutez bien, il y a peut-être 2-3 trucs qui vont nous permettre à nous aussi.
De l'appliquer à nous pour vivre plus longtemps.
Peut-être non. Pas quand même. Georges le Solitaire est mort de vieillesse à plus de 100 ans en juin 2012, selon les estimations des experts. Alors Georges le Solitaire, ce n'est pas un humain, effectivement, c'est une tortue terrestre de l'espèce Chelonoidis abigdoni, et elle est considérée comme l'animal le plus emblématique des Galapagos. Devenu un symbole de la conservation, alors que ses congénères ont été décimés par les pirates et les boucaniers qui ont écumé l'archipel dès le XVIIIe siècle. Malgré son décès, Georges le Solitaire, surnommé ainsi car il a refusé de s'accoupler en captivité, garde toute l'attention des biologistes. En effet, les tortues font partie des vertébrés avec la plus grande espérance de vie et représentent donc un modèle intéressant pour les études portant sur la longévité et les maladies liées à l'âge. Dans ce contexte, une équipe internationale de chercheurs a procédé à des analyses génétiques sur le corps de Georges et d'une tortue géante des Seychelles. Une recherche possible car en 2010, une scientifique de l'université de Yale avait séquencé le génome de l'animal. Il n'y avait donc plus qu'à faire parler les données. Pour quelles raisons ces animaux sont-ils capables de vivre parfois plus de 100 ans en captivité ? Dans une étude parue le 3 novembre 2018 dans la revue Nature Ecology and Evolution, les chercheurs soulignent que ces animaux possèdent des variations génétiques liées à la réparation de l'ADN, à l'activation du système immunitaire et à la suppression du cancer. La comparaison de ces génomes avec ceux d'espèces apparentées nous a mené à détecter des variations spécifiques affectant des gènes liés à la réparation de l'ADN. Ces médiateurs, des médiateurs de l'inflammation et des gènes liés au développement des cancers, notent les chercheurs de l'étude. Les chercheurs espèrent également que ces données permettront de rétablir les populations de tortues géantes. Même pour Chelonoidis abigdoni, il n'est peut-être pas trop tard. Des chercheurs l'avaient identifié en 2012 17 hybrides sur l'île Isabella. Les tests avaient permis l'identification de 3 mâles, de 5 juvéniles, c'est-à-dire moins de 20 ans, et de 9 femelles. L'âge de ces hybrides trouvés sur cette île éloignée des Galapagos suggère que des spécimens Chelonoidis abigdoni sont encore en vie, expliqué dans un communiqué l'université de Yale, à l'origine de la découverte. Il est possible qu'il s'agisse là des descendants de tortues jetés par-dessus bord par des matelots. Encore maintenant, le doute subsiste concernant l'extinction de cette espèce emblématique. qui sait, on va peut-être trouver de bonnes informations pour vivre un peu plus longtemps.
Et pendant que la surprise du chef s'installe, que Yves Olivier installe son micro, son casque, eh bien je prends la main et je vous parle de Noël. Bah oui, ça approche à grands pas, alors forcément il en est question dans la presse, mais question de manière très scientifique. Je prends la balle au bon pour suivre Côme, on va rester dans la thématique scientifique pour débuter cette émission. Un chercheur veut créer l'arbre de Noël parfait. Je vous présente Raj Ladda, un professeur de l'université Dalhousie qui dirige le centre de recherche sur l'arbre de Noël à Truro en Nouvelle-Écosse. Et oui, ça existe, le centre de recherche sur l'arbre de Noël. Un laboratoire dont la mission, quelle mission, est d'améliorer le sapin baumier. Monsieur Ladda, un spécialiste des plantes à l'origine, des arbres et de l'écophysiologie, affirme que son équipe et lui sont des pionniers dans leur domaine, et on veut les croire. Le produit vedette du centre est le sapin baumier Smart, qui représente la quintessence de l'arbre de Noël. Solide, parfumé et surtout capable de conserver ses épines bleu-vert pendant 3 mois. Selon le professeur Ladda, régler les problèmes comme celui de la conservation des aiguilles est primordial pour la survie de l'industrie de l'arbre de Noël dans le Canada Atlantique, alors que cette dernière doit faire face et doit faire concurrence à d'autres marchés et arbres artificiels. Son intérêt pour les arbres de Noël est né il y a plus de 10 ans lorsqu'un producteur l'a approché après ne pas avoir été payé pour une cargaison envoyée en Colombie-Britannique parce que les arbres avaient été livrés en ayant perdu toutes leurs aiguilles. « Je pouvais le voir dans ses yeux », se rappelle le professeur du département des plantes, des aliments et des sciences environnementales. Les arbres avaient perdu leurs aiguilles, mais lui avait l'air d'avoir perdu sa vie, son entreprise et sa crédibilité. Rien de moins. Raj Ladda a alors commencé à s'intéresser aux défis que devait relever le producteur, faisant de la recherche sur les procédures d'expédition et les autres facteurs pouvant affecter les arbres durant leur transport. Il s'est présenté devant le Conseil de l'arbre de Noël de la Nouvelle-Écosse et a réalisé que la conservation des aiguilles était depuis longtemps un problème pour l'ensemble de l'industrie. À l'époque, aucune recherche n'avait été faite sur l'aspect physiologique de la perte des aiguilles post-récolte chez les sapins baumiers. Il en a donc fait sa mission. Il a réuni des producteurs des quatre coins de l'Est du Canada afin de former le consortium de recherche et de développement sur l'arbre de Noël du Canada Atlantique. La première préoccupation des producteurs, la conservation des aiguilles, vous l'aurez compris. Monsieur Ladda a éventuellement obtenu une subvention même de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique à Ottawa. C'est beau quand le gouvernement aide pour ce genre de mission. Parmi ses plus récents projets de recherche figure l'arbre Smart, qui devrait, selon le chercheur, révolutionner l'industrie de l'arbre de Noël. Lui et son équipe ont examiné des sapins baumiers afin d'établir une liste des caractéristiques idéales, dont des branches touffues et la capacité à conserver les aiguilles. Les marqueurs génétiques de ces traits ont été identifiés et les arbres Smart seront bientôt produits en série afin d'être vendus sur le marché. Le chercheur espère commencer à planter les arbres dès l'an prochain. Ils ont fière allure et ils sentent bon. Ils ont aussi une grande capacité à conserver leurs aiguilles, a assuré Monsieur Ladda. Rien ne pourra battre les arbres Smart. Le centre a également développé des produits pour prévenir la chute des aiguilles qui peuvent être appliquées avec de l'eau. Ben oui, c'est comme quand on va chez le coiffeur, j'imagine, on repart avec du shampoing. Raj Ladda et son équipe ont aussi créé des technologies d'expédition et d'entreposage qui peuvent aider les arbres de Noël à conserver leur fraîcheur pendant au moins 2 mois. Ils ont pensé à tout, décidément. Monsieur Ladda compte parmi ses partenaires des ministères provinciaux de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. Par le passé, cela n'a pas été fait de manière coordonnée et concertée, a-t-il expliqué. L'industrie a géré tant bien que mal la situation, mais nous avons maintenant des solutions, et rassurez-vous, on prend soin de vos arbres de Noël.
J'aime ta parure. cet anniversaire. Joli sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi, le Noël, l'entra chez nous par les mains de ma mère. Qui ne ment jamais,
de la constance et de la paix.
Oh, beau sapin, tes vers sommets
offrent la douce image.
Offre la douce image.
Pouvait-on faire autrement que d'écouter Mon beau sapin après cet très éducatif article que Louis nous a lu sur le marché du sapin en Nouvelle-Écosse? C'était Judy Richards et Jean-Pierre Ferland.
Pour un réveil tout en douceur et suave, même un réveil suave, je dirais. Et nous passons la main tout doucement comme ça à Yves Olivier désormais.
Merci beaucoup, bon matin à tous, bon matin chers auditeurs. Ce matin je serai votre spécialiste culturel.
Ça y est, il prend le chapeau de la culture aujourd'hui.
Exactement, donc soyez patient avec moi, soyez compréhensif, soyez indulgent.
Toujours.
Je ne prendrai pas de questions. Hein, parce que...
Aucune interruption, très bien.
Tout à fait. Alors, je vais vous parler d'un Manitobain pour commencer, qui a remporté un concours italien international de poésie. Mm-hmm. Il s'appelle Laurent Poliquin et c'est un texte de Julien Saoukilo de Radio-Canada. L'écrivain et poète Laurent Poliquin a remporté un premier prix au concours international de poésie Léopold Sédar Senghor, qui s'est tenu à Milan, en Italie. Le concours regroupe des œuvres en italien et en français. Pour Laurent Poliquin, participer à ce concours était un défi personnel pour lequel il n'avait pas de grandes attentes. J'ai concouru dans la section française dans l'espoir d'être un peu finaliste. Il y a un flot de candidatures absolument incroyables et sortir du lot, même être finaliste, c'est déjà quelque chose, reconnaît-il. Le texte de Laurent Poliquin évoque les difficultés de l'immigration, des difficultés qui sont toujours actuelles. Je mélange une thématique de difficulté humaine et je fais intervenir la réflexion sur la langue et la poésie en même temps, explique l'écrivain. Le jury du concours est composé d'écrivains et de poètes reconnus qui jugent les textes à l'aveugle sans connaître le nom des auteurs. Lorsque Laurent Poliquin a appris qu'il avait remporté la première place de sa catégorie, il a été surpris mais très content. Il y a une médaille qui vient avec ça et un certificat et 800$, précise-t-il avec une certaine fierté. Toutefois, ce qui l'intéresse avant tout, c'est de faire rayonner la littérature franco-manitobaine. Pour faire briller le français dans un contexte minoritaire, c'est ce qui l'a attiré dans ce concours qui fait la part belle à cette langue dans un environnement à dominante italienne. Je vois la même situation des écrivains francophones africains en Italie. J'aime le fait d'aller à la rencontre de l'autre qui semble très différent. Mais on a la poésie en commun, explique Laurent Poliquin. Le concours Léopold Sédar Senghor est organisé par une association de solidarité italienne envers l'Afrique, Africa Solidarietà Onlus, O-N-L-U-S. Il explique depuis 2015 et est financé par plusieurs organisations, dont l'UNESCO. Et en fait, ce qui m'intéresse en fait dans ce texte, c'est donc l'activité même de faire de la poésie, de lire de la poésie. Mm-hmm. Durant le temps des fêtes, on cherche souvent des activités. Soit on écoute de la musique, karaoké, on joue à des jeux et tout. Bon, ben voilà, je vous propose de la poésie.
Un peu de poésie.
Voilà. Oui.
Ben oui, très bien, ça me paraît tout à fait au coin du feu.
Un petit extrait de poésie en italien peut-être pour la prochaine fois.
Pour la prochaine fois.
Alors, j'ai une petite question à vous poser.
Nous vous écoutons.
Est-ce que vous avez déjà menti à votre médecin? Ou du moins, omis de dire la vérité ou...
Ben non, et je vois pas en quoi ça me serait utile. Là. Je pense qu'à mon avis, le médecin, peut-être plus que l'avocat même, est celui à qui il ne faut pas
dire la vérité. Eh bien, tout le monde ne pense pas comme vous, parce que 60 à 80% des patients auraient déjà menti à leur médecin, selon une étude américaine, et quitte à mettre leur santé en danger, effectivement. Et donc, lorsque votre médecin vous demande à quelle fréquence vous faites de l'exercice, êtes-vous franc au point de répondre « presque jamais », si tel est le cas. Et quand il vous interroge sur vos habitudes alimentaires, est-ce que vous lui parlez de vos virées régulières au fast-food et de la tablette de chocolat que vous avez engloutie la veille? Peut-être pas, et vous n'êtes pas le seul. 60 à 80% des patients auraient déjà menti dans le cadre de leur consultation médicale, rapporte une étude publiée dans JAMA, conduite par des chercheurs du collège communautaire de Middlesex et de l'université d'Utah à Salt Lake City. Les scientifiques ont interrogé 4510 patients via deux enquêtes sur Internet. La première a recueilli les réponses de 2011 participants, âgés en moyenne de 36 ans, et la deuxième, celle de 2499 participants, âgés de 61 ans en moyenne. Les sondés ont été invités à dire, pour différentes catégories d'informations médicales, comme l'alimentation, la prise de médicaments, l'activité physique, etc., s'ils avaient déjà omis de dire la vérité à leur médecin, et pour quelles raisons. Verdict: la plupart des personnes interrogées avouent avoir délibérément pratiqué une rétention d'informations sur au moins une des catégories. Outre le régime alimentaire et l'activité physique, plus du tiers des volontaires avouent ne pas avoir montré leur désaccord avec leur médecin. Un quart n'a pas compris ses instructions, mais n'a pas osé lui dire. Et près d'un sur cinq cache le fait qu'il n'a pas suivi correctement son traitement. Et 1 sur 10 qu'il a pris des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre, carrément. Dans les deux enquêtes, ce sont les jeunes femmes se déclarant en mauvaise santé qui rapportent la plus grande fréquence d'omission à leur médecin. Alors pourquoi mentir? Les personnes interrogées avancent à cela plusieurs raisons. La première, la gêne de dire la vérité, mais aussi la peur d'être jugé et sermonné. La plupart des gens veulent que leur médecin leur porte une grande estime, explique dans un communiqué de l'Université d'Utah Angela Fagerlin, auteur principal de l'étude. Ils craignent d'être vus comme des personnes qui ne prennent pas de bonnes décisions. Le problème, c'est que le médecin ne peut pas fournir de conseils personnalisés à ces personnes qui en auraient pourtant besoin. Si les patients cachent des informations sur leur alimentation ou la prise de médicaments aux praticiens, cela peut avoir des conséquences pour leur santé, surtout s'ils souffrent d'une maladie chronique, explique dans le communiqué Andrea Gourmankin-Levy, co-auteur de l'étude. Pour résoudre ce problème, l'équipe de chercheurs compte évaluer dans une prochaine étude si les patients sont plus ouverts face à un médecin qu'ils connaissent depuis longtemps ou au contraire face à un praticien qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Et pour Angela Fagerlin, les médecins ont leur part de responsabilité dans les mensonges des patients. La manière dont certains praticiens communiquent dans certaines situations peut amener les patients à hésiter à se confier, juge-t-elle. Peut-être devrait-il être formé pour aider leurs patients à se sentir plus à l'aise.
C'est vrai qu'en y repensant, le médecin, oui, il y a un rôle social, effectivement, et souvent, parfois, en tout cas, les médecins sont les amis des parents, sont invités parfois à dîner. D'accord, je peux comprendre qu'on cache certaines petites choses, parfois.
Minute, ils font déjà 10 ans d'études de médecine, s'il faut leur ajouter des années de communication, ça sera pas possible.
Ils deviendront médecins vers 50 ans,
non, c'est clair.
un bon 10 ans et à la retraite.
Mais le facteur, effectivement, le fait que les patients puissent se sentir jugés ou... par le médecin peut jouer, effectivement.
On aura bientôt des médecins robots, de toute façon.
Il faut diminuer leur salaire et le mettre au pourboire.
on va pas se faire des amis, là.
J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à faune, le bombardement d'informations qui s'élancent dans toutes les directions, des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue, un camion qui vrombit, des gens qui marchent funambules sur le fil téléphonique de messages contradictoires, les micro-moments de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste. les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sors de ma réserve. J'espère que je ne te fais pas la morale, tu sais je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral, je raconte juste ce que je vois. Le commencement du jour est sans mémoire, il repose sur la table des constellations. Une forêt d'un bleu sombre sur une carte postale sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse qui repose sur le dos de nos ivresses. Espèce menacée et toutes les énigmes semblent résolues dans des concours de popularité. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve.
Jérôme Minière qui nous expliquait, qui nous chantait même, la vérité est une espèce menacée.
Et il y a une autre chose qui est peut-être une espèce menacée, bien, ce sont les merveilles du monde. En avez-vous déjà vu une de vos yeux, vu mes chers compères?
Dans un petit contexte entravé, oui. Je ne partagerai pas.
Bon, je vais vous parler des pyramides de Khéops. Partons du côté de l'Égypte et nous y allons pour admirer le paysage en quelque sorte. Mais ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Tollé autour d'images d'un couple nu sur la pyramide de Khéops. C'est l'affaire du moment. La principale source du scandale est une photo floutée signée du Danois Andreas Vid qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. On y voit un couple nu et enlacé au sommet d'une pyramide, de quoi soulever une vague d'indignation dans une Égypte très conservatrice. Parallèlement, une vidéo montrant vraisemblablement le même couple, le photographe et une amie, a été postée sur YouTube le 8 décembre. Elle montre le couple en train d'escalader dans l'obscurité une pyramide présentée comme celle de Gizeh. La femme est ensuite filmée de dos, se déshabillant. Le ministre des Antiquités, Khaled El-Enani, cité dimanche par le journal d'État Al-Aram, a assuré que les autorités devaient vérifier si, je cite, « une vidéo pornographique a bien été tournée en haut de la pyramide ». Il a également ajouté que l'incident serait une violation de la moralité publique. La vidéo osée a soulevé fureur et outrage parmi les Égyptiens, a souligné le ministre, ajoutant que les responsables égyptiens négligents seraient punis si l'infraction était vérifiée. Andreas Witt dit avoir escaladé la pyramide avec une amie fin novembre. Sa vidéo a recueilli près de 3 millions de vues. Dans une interview au quotidien danois Ekstrabladet, M. Witt, 23 ans, a expliqué avoir rêvé de nombreuses années d'escalader cette grande pyramide. L'idée d'y faire une photo de nu est là depuis longtemps aussi, a-t-il dit. Je suis triste que tant de personnes se soient mises en colère, mais j'ai aussi reçu de nombreuses réponses positives de beaucoup d'Égyptiens, ajoute-t-il dans l'interview. Par ailleurs, le photographe explique qu'il ne souhaite absolument pas déclencher une nouvelle crise comme les caricatures de Mahomet. Enfin, il explique que la jeune femme, avec lui sur les images, n'est pas sa compagne. C'est une pause, nous n'avons pas eu de relation sexuelle, précise-t-il. En Égypte, très vite, la photo et la vidéo ont suscité colère et polémique car beaucoup ont vu dans ces scènes des actes illégaux et irrespectueux du patrimoine égyptien. Une civilisation de 7000 ans s'est transformée en décor pour une scène sexuelle, a écrit un internaute égyptien sur Twitter, par exemple. Ils veulent porter atteinte à la dignité et la fierté des Égyptiens car la pyramide reflète la gloire et la grandeur du peuple égyptien, a affirmé un autre. Les autorités égyptiennes ont ouvert une enquête, émettant en outre des doutes sur la véracité des images. Le parquet égyptien a ouvert une enquête sur l'acte du photographe danois et l'authenticité de la vidéo et des photos du haut de la pyramide de Khéops qu'il a publiées. Si ces images ont vraiment été tournées au sommet de la pyramide, il s'agirait d'un crime extrêmement grave. L'escalade des pyramides est interdite, rappelons-le quand même pour tous ceux à qui ça donnerait des idées, en Égypte depuis de nombreuses années. Mais chaque année, plusieurs personnes tentent de grimper au sommet du monument. Au pied des monuments du plateau de Gizeh, des panneaux stipulent clairement que l'ascension est interdite et toute personne aperçue sur l'une des pierres des monuments est immédiatement rappelée à l'ordre. En 2016, par exemple, un touriste allemand qui avait pris des photos et des vidéos après avoir escaladé la Grande Pyramide avait été interdit d'entrer sur le territoire égyptien à vie, tout simplement. Donc voilà, ne montez pas sur les pyramides et gardez vos vêtements. Poursuivons cette émission et poursuivons avec la culture et l'Afrique, je crois. Yves Olivier, ouais. De quoi nous parlez-vous?
Ben, on reste dans le domaine culturel, un peu comme vous, avec les pyramides et de petits conflits comme ça, hein, justement, pas juste entre le Danemark et l'Égypte. alors en fait, c'est Jean-Christophe Laurence de La Presse qui nous parle de... Ben, des trésors de pays africains qui auraient été pillés lors de la colonisation. Et la question qui est posée, c'est faut-il les rendre ? C'est une question qui se pose actuellement en Europe où l'appropriation culturelle prend un tout autre visage. La France vient de prendre les devants en annonçant le retour de certains objets volés au Bénin. Le trône du roi Nguezo se dresse fièrement sur un socle rien qu'à lui. Fait de bois et de métal, il domine de ses six pieds tous les objets d'une salle consacrée au Dahomey, nom qu'on donnait jadis au Bénin. C'est sans l'ombre d'un doute l'un des plus beaux morceaux d'art africain appartenant au musée du Quai Branly. La pièce a été rapportée d'une expédition française à la fin du 19e siècle et constituait depuis une véritable attraction pour les amateurs d'art primitif. Seulement voilà, dans quelques années, si tout se passe comme prévu, on ne pourra plus admirer le trône du roi Nguezo à Paris, car celui-ci doit être rendu au Bénin avec une vingtaine d'autres objets datant des guerres de colonisation. Ce retour, annoncé fin novembre par le président Emmanuel Macron, doit être vu comme un moment historique, car c'est la première fois, à de très rares exceptions près, qu'un pays européen accepte de restituer à son pays d'origine des objets pillés lors des guerres coloniales. Qu'on pense au British Museum qui a toujours refusé de rendre la pierre de Rosette à l'Égypte ou les marbres d'Elgin à la Grèce. Certes, nous sommes encore loin de la coupe aux lèvres. En France, tout ce qui appartient aux collections nationales, donc Louvre, musée d'Orsay, du Quai Branly, etc., est soumis au sacro-saint Code du patrimoine, selon lequel tout trésor national est inaliénable et imprescriptible, c'est-à-dire coincé en France à perpétuité. Il faudra donc une nouvelle loi ou une modification du Code du patrimoine pour que le trône de Nguezo rentre chez lui. Le processus s'annonce long, lourd et fastidieux, d'autant que le gouvernement français a actuellement d'autres chats à fouetter, notamment la crise des gilets jaunes, qui donne quelques cheveux gris au président Macron. Si la démarche prend du temps, plusieurs se réjouissent toutefois de cette incroyable avancée, fût-elle pour l'instant théorique, car la restitution des objets d'art béninois crée une brèche. C'est historique, parce que cette démarche est une porte ouverte qui ne va pas se refermer. C'est le début d'un mouvement inéroxable, indique Corinne Hershkovitch, avocate spécialiste du sujet. De fait, d'autres pays africains ont déjà commencé à réclamer le retour de leur patrimoine culturel. C'est le cas du Cameroun, du Nigeria, du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou du Congo. C'est aussi le cas du Sénégal, qui vient tout juste d'inaugurer son musée des civilisations noires à Dakar, un espace encore partiellement vide qui n'attend plus que le retour des objets spoliés. Mais le combat s'annonce difficile. L'Allemagne, qui possède des milliers d'objets du Cameroun, du Togo ou de la Tanzanie, ne montre pour l'instant qu'une timide ouverture. La Belgique, de son côté, reste sourde aux demandes de restitution du Congo, malgré l'intense lobby de groupes citoyens afro-belges, qui réclament notamment le retour de 300 crânes, dont celui du chef de guerre Lusinga Iwa Ngombe, qui se trouve actuellement au Musée royal des sciences naturelles de Bruxelles. Cette résistance à rendre s'exprime de différentes façons. On prétend que l'Afrique ne possède pas les conditions favorables au retour des objets. On évoque le manque de musées adéquats, les conditions de conservation bancale, voire l'instabilité politique. On évoque aussi le caractère universel de ce patrimoine de l'humanité, en arguant que ces pièces devraient rester là où elles peuvent être vues par le plus grand nombre de personnes. C'est un argument, mais on ne peut rester collé à ça quand on évolue. Lance Corinne Hershkovitch, en rappelant qu'au moins 80%, vous l'avez bien lu, des pièces majeures d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement en dehors de l'Afrique. Si on veut qu'un peuple puisse se développer et que la transition de la culture à la jeunesse puisse se faire, il faut avoir son patrimoine sur place, non ? Craignant pour l'intégrité des institutions qui ont mis ces objets en valeur depuis plus d'un siècle, certains ont proposé que les restitutions ne soient que temporaires. D'autres suggèrent de créer un partenariat entre les musées occidentaux et africains, de manière à ce que les collections tournent et reviennent régulièrement en Europe. Une proposition jugée irrecevable par Mireille Chessy-Robert, directrice de l'association des Belges afro-descendants, Bamko Kran, qui ne voit là qu'un autre geste arrogant et paternaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si je vous vole votre voiture et qu'après je vous dis « on fait partenariat et je vais vous la prêter de temps en temps », vous répondez quoi ? Demande-t-elle. Ce point de vue fait écho au rapport de Felwine Sarr et de Mélénique Savoie, publié fin novembre en France à la demande d'Emmanuel Macron. Pour les auteurs du document, la restitution ne peut être sur le principe que définitive. On y suggère toutefois que seules les œuvres mal acquises, c'est-à-dire dans le cadre de pillages, de crimes et de violences, soient restituées et pas nécessairement l'ensemble du patrimoine. Le dossier, dans tous les cas, est loin d'être clos. En Belgique, il a même repris de plus belle le 8 novembre lors de la réouverture du musée royal Tervuren à Bruxelles, construit en 1898, à la gloire du colonialisme belge. La polémique était si féroce que même l'actuel roi de Belgique, Philippe, s'est abstenu d'y assister. Une grosse victoire selon Mireille Chessy-Robert, qui rappelle que les ossements de 7 guerriers congolais reposent encore sur le terrain du musée. En ce moment, on sent beaucoup d'énervement, renchérit Nathalie Bondil, directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal, le MBAM, qui dit suivre le débat de près. Madame Bondy trouve normal que cette discussion soit ouverte et reconnaît qu'il s'agit d'un débat passionnant, voire nécessaire, tant pour les pays africains qui cherchent à se reconstruire, que pour les pays occidentaux qui veulent faire la paix avec les démons de la colonisation. Mais elle appelle toutefois à la modération et espère que le mouvement ne se transformera pas en vente de feu. C'est toute la question de la propriété morale et de la propriété légale, conclut-elle. Du point de vue éthique, quelle est la légitimité de ces objets-là ? C'est un vaste sujet. Aussi vaste que le travail qui doit se faire en amont avant de les restituer. Les provenances de ces objets doivent être étudiées, leur traçabilité doit être comprise. Il ne faut rien précipiter. On peut être pour les restitutions, mais il ne faut pas être contre les musées. Parce que la loi y est plus flexible, le Canada a une longueur sur la France et la Belgique en matière de restitution de biens culturels. Dès 1978, le Musée canadien des civilisations prend l'initiative de rendre à deux tribus autochtones des objets à caractère spirituel qui avaient été confisqués. Ce geste ne fait pas l'unanimité, mais ouvre la voie à une série d'accords entre les musées nationaux et les Premières Nations. On a mis en place des outils qui permettent d'avoir un cadre légal et professionnel plus avancé sur ces questions-là, résume Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Dans les dernières années, Madame Bondil a notamment géré deux demandes de restitution venues de la Nouvelle-Zélande et du Cambodge. En vertu de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant le retour des biens culturels, les musées publics canadiens ont également restitué des objets à une douzaine de pays depuis 1997, dont la Bolivie, la Bulgarie et la Syrie. Ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce texte, c'est si on fait la comparaison avec les flux migratoires. Mmh. Et là, tu dis, ils veulent vraiment pas restituer les 700 crânes de gens qui sont morts dans le 15e. Par contre, les crânes actuels, on peut les gérer autrement.
Un épineux sujet, effectivement, on avec peut... tout ce que ça implique. De...
On peut tout emmener en Suisse. Ouais, c'est une autre pour la Suisse.
Tout le monde en Suisse, dans les montagnes. Quelle bonne
idée.
Secret. Mais est-il temps de partir dans l'espace? Pas encore.
Je sais pas si on aura le temps, en fait. Je sais pas quoi vous
juste un petit calcul
parler,
mathématique quelque chose. Petit...
Non, on va parler d'autre chose. J'imagine que vous connaissez tous ces statistiques, enfin du moins qui dit que qu'on a je ne sais plus leur, quelque chose comme 100 000 bactéries par centimètre carré de peau sur soi, quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose?
Oui. Tout est très sale. Oui, non,
tout est très sale.
Moi, je me lave deux fois.
Effectivement. Eh ben, c'est pas grand chose finalement, parce qu'on a découvert qu'environ 70% des microbes terrestres se cachent dans les sous-sols.
Ah, bon, bah, qu'ils y restent. Mais parlez-nous-en, mais qu'ils y restent.
Donc, des centaines de chercheurs internationaux, membres du Deep Carbon Observatory, ont publié lundi 10 décembre 2018, à l'occasion du sommet américain de géophysique à Washington, la somme de leurs travaux, estimant que la vie profonde représentait une masse de 15 à 23 milliards de tonnes de carbone, soit 245 à 385 fois plus que celle des 7 milliards d'humains. Cela n'avait jamais été quantifié auparavant. La communauté scientifique ne disposait que d'observations ponctuelles. Les chercheurs de cette collaboration internationale de 10 ans ont réalisé des centaines de forages sous les continents et les océans. Un bateau japonais a foré 2,5 km sous le plancher océanique, lui-même à 1,2 km sous la surface, capturant dans ses carottes des microbes jamais observés auparavant et vivant dans une couche de sédiments vieille de 20 millions d'années. Les microbes vivent partout dans les sédiments, explique Fumio Inagaki de l'agence japonaise pour les sciences marines et de la Terre. Ils sont là et attendent. On ne comprend pas encore le mécanisme pour la survie à long terme. Ces organismes vivent des kilomètres sous la surface, dans la croûte terrestre, et ont apparemment évolué séparément de la vie en surface. Ce sont de nouvelles branches dans l'arbre de la vie qui existent sur Terre depuis des milliards d'années sans qu'on ne les ait jamais remarquées, explique Karen Lloyd de l'Université du Tennessee. C'est comme si vous veniez de découvrir soudain un collègue de bureau en vous retournant. Bon, je ne sais pas si la comparaison est très...
moins parlante que celle de la voiture, je trouve.
Effectivement.
Mais bon, c'en est une.
Ces microbes sont principalement des bactéries et des archées, des micro-organismes unicellulaires. Certains sont zombies. Ils utilisent toute leur énergie à survivre, sans aucune activité, dans des poches isolées de la surface depuis des temps immémoriaux. Des dizaines de millions d'années ou plus. Soumis à une pression extraordinaire et privés de nutriments, ils ne se reproduisent pas et n'ont aucune activité métabolique pour se réparer, par exemple. D'autres bactéries ont une activité et fascinent les biologistes car elles fonctionnent dans un système qui n'a rien à voir avec la surface, où toute chaîne alimentaire dépend de la photosynthèse, qui fait pousser les plantes et permet à un ensemble d'organismes de se nourrir. Leur source d'énergie n'est pas le soleil et la photosynthèse, dit Bénédicte Ménez, responsable de l'équipe géomicrobiologie à l'Institut de physique du Globe de Paris. Ici, ce qui fait démarrer les communautés, c'est la chimiosynthèse. Ils tirent leur énergie des roches quand des roches s'altèrent. Le record observé appartient à un organisme unicellulaire baptisé Geogema barossi, trouvé dans des sources hydrothermales sur les fonds des océans. Il vit, croît et se réplique à une température de 121 degrés. La vie profonde reste un formidable mystère scientifique. Comment les microbes se répandent-ils en sous-sol? Sont-ils descendus de la surface ou venus de l'intérieur de la Terre? Jusqu'à quelle profondeur trouve-t-on du vivant? Et quelles sont leurs sources d'énergie principales? Le méthane? L'hydrogène? Les radiations naturelles? Ces questions nous concernent, insistent les chercheurs. Par exemple, les scientifiques ne savent pas encore la manière dont la vie souterraine affecte la vie en surface et vice-versa, dit Rock Colwell de l'Université de l'État de l'Oregon. Les humains accumulent les projets d'exploitation du sous-sol profond, par exemple pour stocker du CO2 ou enfouir des déchets nucléaires. Jusqu'à présent, ces projets considéraient que les profondeurs étaient globalement stériles, dit Bénédicte Ménez. mais les interactions sont sans doute sous-estimées. Il y a une vraie prise de conscience de cet impact du vivant très profond dans la Terre, dit-elle. La découverte change aussi notre regard sur les autres planètes. Par exemple, sur Mars, on sait depuis cette année qu'il y a de l'eau liquide, mais où l'on cherche toujours une trace de vie. Savoir que des microbes peuvent vivre à des niveaux de pression et de température extrêmes peut nous aider à mieux chercher sur d'autres planètes, dit Rock Colwell, qui enseigne la discipline d'astrobiologie.
Merci bien, ça grouille sous nos pieds effectivement.
On a plus qu'on pense, apparemment.
Le vent du nord et la pièce Adieu du village.
Et le vent du Nord nous apporte des billets parfois. Je vais vous parler d'une technique facile pour trouver de l'argent cette fin d'année. Regardez vers le ciel, c'est aussi simple que ça. Et je n'ai pas un seul exemple, j'en ai deux. Donc pour tous nos auditeurs de New York et de Hong Kong, écoutez bien, ça s'est passé près de chez vous. Des passants ont filmé samedi dernier dans le quartier de Sam Sui Po à Hong Kong avec leur téléphone portable des billets voletant depuis le sommet d'un immeuble jusqu'au sol où les gens tentaient de les rattraper. La scène a été retransmise même en direct par un homme qui gère une page Facebook sur les crypto-monnaies et dit avoir voulu jouer les Robins des Bois. Wong Chin-Kit, âgé de 24 ans et connu en ligne sous le nom de « jeune maître de la monnaie », a expliqué sur Facebook avoir ainsi souhaité aider les pauvres en volant les riches. Je me demande si l'un d'entre vous croit que l'argent peut tomber du ciel, s'est-il interrogé, avant que la caméra se tourne vers le sommet d'un immeuble voisin, d'où s'envolaient comme des confettis des flots de billets de 100 dollars de Hong Kong, soit environ 12,80 dollars américains chacun. Il a été arrêté dimanche, accusé d'avoir provoqué des troubles dans un lieu public, alors qu'il revenait dans le quartier à bord de sa Lamborghini. La police a précisé avoir récupéré des billets pour une valeur de quelque 6000 dollars de Hong Kong, soit environ 770 dollars US. Des fortunes se sont constituées depuis quelques années grâce aux crypto-monnaies, très en vogue, en particulier le Bitcoin, dont la valeur a toutefois plongé, son cours actuel passant de quelque 20 000 dollars US fin 2017 à environ 3200 vendredi dernier. Ça, c'était pour Hong Kong. Et plus proche d'ici, du côté de New York, eh bien, c'est beaucoup plus d'argent qui s'est envolé en l'air. Les portes d'un véhicule de la Brinks se sont ouvertes jeudi passé pour une raison inconnue et deux sacs contenant des billets de 100 dollars se sont vidés sur la chaussée. De nombreux automobilistes, se sont arrêtés tout de suite pour ramasser les coupures, provoquant, vous vous en doutez, plusieurs accrochages. Selon NBC News, la police locale, et citant la police locale, les deux sacs contenaient en tout 510 000 dollars, dont seulement 205 000 ont été récupérés. Jusqu'ici, il manque donc encore 293 535 dollars, a indiqué très précisément la police, précisant que 11 000 dollars à environ avaient été ramenés par des particuliers honnêtes ayant ramassé des billets. Récupérer des billets de banque de cette manière s'apparente toutefois à du vol, a rappelé la police.
Très chers auditeurs, vous posez peut-être la question comme moi, mais en fait, c'est ça, il n'y a pas de chanson.
on se demandait si Jean-Sébastien est en train de nous préparer.
Yves-Olivier, beaucoup trop honnête, qui dévoile les coulisses de l'émission.
Alors, voilà, ils attendaient que je...
Nous vous écoutons,
bien
où
joué,
nous
Jean-Sébastien.
Emmenez-vous, où
alors,
nous emmenez-vous
bah, je vous emmène en Corée.
En Corée, d'accord, pas très loin.
Ni du sud, ni du nord, les deux. Alors là, j'ai déjà hâte à savoir ça va être quoi la chanson que Jean-Sébastien va nous trouver par rapport à ce que... Parce que là, je vais vous parler de la lutte coréenne.
D'accord.
Connaissiez-vous
le sport, vous voulez dire.
D'accord. La lutte, ouais. C'est dans le sable avec des shorts, puis c'est comme la lutte... En fait, ce qui est intéressant avec le sport, la lutte, c'est que tu le retrouves dans plusieurs sociétés, mm-hmm. plusieurs pays.
Mais décliné.
C'est la même forme.
Décliné, effectivement.
Mais c'est la même chose.
Oui.
D'accord,
c'est juste
oui.
que c'est...
ça a l'air de ressembler au sumo, ce que vous décrivez
au
pour l'instant.
Au sumo ou à la lutte, tout ce qui est en Afrique de l'Ouest, donc Sénégal et tout, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu que ce soit des Asiatiques, c'est des Africains. Mais c'est toujours des colosses, bien entendu, parce que bah, ça te prend d'être...
C'est la constante.
Mais c'est ce que j'aime de ce sport, c'est qu'il réunit.
Très bien. Bah, voilà, écoute, nous vous écoutons pour la lutte coréenne.
Alors, c'est un texte de France 24, paru le 26 novembre 2018. La lutte coréenne est inscrite depuis lundi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité après une candidature commune de Pyongyang et de Séoul auprès de l'UNESCO. Une démarche sans précédent. Je suis très content donc, pour les deux pays. Ils ont trouvé de quoi
un
terrain d'entente. Hein, voilà. Et c'est une première. Les deux Corées officiellement en guerre depuis le conflit de 1950 à 1953 ont obtenu lundi 26 novembre à l'issue d'une candidature conjointe l'inscription donc de la lutte coréenne sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Cette démarche marque une nouvelle étape dans leur réconciliation entamée par un rapprochement spectaculaire ces derniers mois. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont d'abord présenté des dossiers séparément avant de les fusionner, une décision sans précédent. Le fait que les deux Corées aient accepté de fusionner leurs candidatures respectives est sans précédent, a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à l'AFP. Ce résultat est une nouvelle illustration du pouvoir extraordinaire du patrimoine culturel comme vecteur de paix et trait d'union entre les peuples, s'est-elle félicitée. Le comité ad hoc de l'UNESCO, réuni à Port-Louis, capitale de l'île Maurice, a classé la lutte traditionnelle coréenne sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le S-Sirum, donc 2-S-I-R-U-M, en Corée du Nord, ou le S-Sireum, donc S-S-I-R-E-U-M, en Corée du Sud, fondamentalement lié à la terre et à l'agriculture, et à la fois un sport national et une pratique culturelle. Des compétitions sont organisées périodiquement à l'occasion d'événements ou de fêtes agricoles liées au cycle des saisons. Les deux Corées, qui partagent la même langue et la même culture, avaient jusqu'ici toujours entrepris des démarches concurrentes pour l'inscription de traditions nationales ou au patrimoine de l'humanité. En 2013, Séoul avait ainsi obtenu la reconnaissance de kimchi, spécialité à base de choux, fermenté, très prisé dans la péninsule, mais aussi à Montréal, comme bien mondial immatériel, poussant le Nord à faire de même en 2015. Le chant traditionnel Arirang a connu le même scénario. L'UNESCO a d'abord retenu une candidature sud-coréenne en 2012, puis celle du Nord 2 ans plus tard. Concernant la lutte coréenne, qui présente quelques similarités avec le sumo japonais, Pyongyang avait entrepris en premier des démarches auprès de l'UNESCO avant que Séoul ne lui emboîte le pas en 2016. Une inscription conjointe sur la prestigieuse liste du patrimoine immatériel de l'humanité va contribuer au sentiment d'homogénéité, d'identité commune, estime Kim Dong-sun, spécialiste des questions sportives à l'université Kyonggi en Corée du Sud. D'origine ancestrale, il est représenté sur des peintures murales dès le 4e siècle. Le Sireum met aux prises deux lutteurs portant culotte et ceinture dans un cercle de sable. Le fondateur du régime communiste de Corée du Nord, Kim Il-sung, avait fait du développement de ce sport une priorité nationale. Au sud, le président autoritaire Chung Dong-won a aussi promu le Sireum dans les années 1980 pour tenter de détourner l'attention de la vague contestataire à laquelle il faisait face. Ce sport a depuis perdu de son attrait. Les équipes professionnelles sponsorisées par de grands groupes comme Samsung ont disparu, mais ses partisans espèrent lui redonner une nouvelle jeunesse à travers cette inscription commune. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture travaille aussi sur d'autres objets de réconciliation, dont la rédaction d'un dictionnaire étymologique coréen recensant les pratiques linguistiques du Nord et du Sud. D'une certaine manière, il n'y a que nous qui puissions avancer vraiment de manière décidée en ce moment, relève d'une source une source diplomatique à l'UNESCO, en rappelant que les lourdes sanctions internationales qui frappent tout projet économique avec la Corée du Nord. Une zone de biosphère pourrait aussi être créée dans la zone démilitarisée, No Man's Land, de 4 km de large et 248 km de long, sur la frontière intercoréenne, où la nature a retrouvé ses droits avec plusieurs décennies de guerre froide. Des initiatives aussi sont à l'étude pour permettre le partage et la gestion conjointe des eaux transfrontalières dans la péninsule. Donc tantôt, je vous ai proposé la poésie comme activité du temps des fêtes. Là, je vous propose la lutte dans le salon. Je vous assure, j'ai déjà essayé ça, c'est vraiment le fun. Ça te permet de digérer, de bien te défouler.
Le corps et l'esprit avec qui vous
rangez. Ranger les objets de valeur, par exemple.
Terminons l'année avec une petite brève qui nous vient de Disney et de l'univers judiciaire américain. Un juge de l'État du Missouri a condamné un braconnier multirécidiviste à aller en prison déjà, mais à visionner régulièrement Bambi, une fois par mois, très exactement selon la sentence prononcée par le tribunal. Grand classique de Walt Disney qu'on connaît tous, voilà, donc David Berry va passer un an en prison et est tenu, il sera surveillé, de regarder Bambi une fois par mois, voilà qui lui apprendra. Et c'est la fin non seulement de cette émission, mais de cette année 2018. Un grand merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous Yves-Olivier et Koum qui nous avez rejoint cette année. J'espère vous voir en 2019 également. Je croise les doigts, je reverrai en tout cas, ça c'est certain, Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde, les choix musicaux. Bonne fin d'année, bon temps des fêtes à tous et on se voit en 2019.
Meilleurs vœux, joyeux temps des fêtes.